bienvenue, 10h01, midi ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Dans l'actualité, l'extrême droite aux portes du pouvoir en Saxe-Anhalt, dans l'est de l'Allemagne. Le parti AfD est donné favori du scrutin régional qui se tient demain dimanche. Jamais encore un land allemand n'a été gouverné par l'extrême droite. Dans le conflit Russie-Ukraine, une initiative américaine, les émissaires de Donald Trump se rendent ce week-end à Moscou et à Kiev, porteurs d'une proposition. Dans le Golfe, des explosions entendues près de l'île iranienne de Karg, où se trouve un important terminal pétrolier, un navire iranien aurait été visé par un missile américain. 10 jours après la catastrophe, un sauvetage miraculeux au Népal, un ouvrier chinois resté bloqué dans un tunnel a pu être extrait vivant. J-1 en Saxe-Anhalt, dans l'est de l'Allemagne, dans l'ex-RDA, où les électeurs sont appelés aux urnes, donc demain dimanche. Ces élections régionales pourraient porter au pouvoir l'extrême droite, ce qui serait une première dans un land allemand depuis 1945. L'AfD, l'alternative pour l'Allemagne, est donnée largement favorite par les sondages. Elle organisait hier soir un grand meeting à Magdebourg, la capitale régionale. Reportage de notre envoyé spécial Muriel Paradon.
Tout est possible, répète à l'envi Ulrich Siegmund, le chef de file de l'AfD en Saxe-Anhalt. C'est même son slogan de campagne. Ses sympathisants, qui sont un peu monsieur et madame tout le monde, veulent y croire, comme ce quarantenaire.
Notre économie se casse la figure. Les prix de l'énergie sont élevés, le prix des carburants aussi. Il y a beaucoup trop d'impôts. Ulrich Siegmund a dit qu'on allait commencer à changer les choses ici, avant de conquérir toute l'Allemagne.
Et qu'importe si le programme économique de l'AfD reste flou. Il y a en tout cas un thème qui rassemble les sympathisants, toutes générations confondues, c'est la lutte contre l'immigration. Lucas a 22 ans.
Je trouve que c'est bien que l'AfD veuille lancer une campagne massive d'expulsion. On ne doit pas renvoyer les étrangers qui travaillent, mais ceux qui font des conneries.
Des étrangers accusés de tous les maux, d'être des criminels, mais aussi de toucher trop d'aides, peste cette retraité.
Si les étrangers quittaient tout ce pays, nos retraites s'amélioreraient parce qu'on les finance avec notre argent. Ça ne peut plus durer. On n'a pas travaillé toute notre vie pour qu'à la fin, le peuple allemand soit oublié.
Et c'est pareil pour le soutien à l'Ukraine que le parti d'extrême droite veut stopper, une idée qui séduit Wieland, qui est ingénieur.
Pour la guerre en Ukraine, beaucoup d'argent est dépensé. C'est de l'argent de mes impôts qui pourrait être utilisé autrement.
Dans cette région d'ex-Allemagne de l'Est où les habitants se sentent particulièrement abandonnés, les recettes de l'extrême droite font le plein. Muriel Paradon, Magdebourg, RFI.
10 jours après la catastrophe, un nouveau miracle au Népal. Les secours ont réussi à sauver un ouvrier chinois resté bloqué dans un tunnel depuis la crue meurtrière du 26 août. C'est le 3e sauvetage du genre, donc dans un tunnel. Les secours poursuivent leurs efforts pour tenter de localiser d'autres survivants dans les tunnels du nord du Népal. La catastrophe a fait, selon les derniers bilans officiels, au moins 1325 morts et près de 5600 disparus. Ils se rendent ce week-end d'abord à Moscou, puis à Kiev. Jared Kushner et Steve Witkoff, les émissaires de Donald Trump, sont, selon le président américain, porteurs d'une proposition pour mettre fin à la guerre en Ukraine. En attendant, les frappes russes se poursuivent avec leur lot de victimes civiles. Au moins 4 personnes tuées, 5 autres blessées à Kamiansk, ville du centre-est de l'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky a, lui, dénoncé des frappes qui ont touché dans la nuit les 2 aéroports de Kiev. Cette semaine, l'Allemagne a accusé Moscou d'avoir envoyé un drone chargé d'explosifs contre l'aéroport de Leipzig. L'Union européenne dénonce une forme de guerre hybride visant à décourager les 27 dans leur soutien aux Ukrainiens. Une Europe qui doit se montrer ferme et unie. Aux yeux de Jean-Noël Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, il était ce matin l'invité de RFI.
Ce que Vladimir Poutine voudrait tenter de faire croire au monde, c'est que les Européens sont bellicistes, qui veulent la guerre avec la Russie et qui veulent l'escalade.
Alors que chacun le voit, les limites,
et donc... alors que chaque, eh oui, et à chaque fois qu'il a testé les limites, il a rencontré la fermeté et l'unité des Européens. Nous allons tenir à notre stratégie parce qu'elle fonctionne. Soutien à l'Ukraine, je l'ai dit, financier,
elle
énergétique,
malgré les cyberattaques qui se multiplient.
Mais bien sûr, Vladimir Poutine est en échec absolu. Regardez la situation en Russie, où on a des pénuries de carburant, où l'économie s'effondre. La population russe souffre des choix délirants de Vladimir Poutine aujourd'hui.
Aussi, d'une certaine manière.
Mais dans des proportions bien moindres. Et si Vladimir Poutine est en échec à la fois militaire, économique et politique, voire diplomatique, c'est parce que nous avons pris, nous, Européens, à l'unanimité des paquets de sanctions, nous avons privé Vladimir Poutine de 500 milliards d'euros qu'il aurait sinon engouffré dans sa guerre d'agression contre l'Ukraine.
Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, au micro de Clotilde Dumay. Une interview à retrouver en intégralité sur notre site RFI.fr. Il a aussi été interrogé sur le Niger une semaine après une mutinerie. Non, la France n'a pas poussé des soldats nigériens à se mutiner. Ce sont là pures fantaisies, a commenté Jean-Noël Barrot. Des explosions entendues aujourd'hui près de l'île iranienne de Karg dans le Golfe, là où se trouve un important terminal pétrolier. Un pétrolier iranien aurait été la cible d'un missile tiré par les forces américaines. L'information vient de deux agences de presse. Elle n'a pas été commentée par les autorités de Téhéran. Explosions aussi en Bolivie, des explosions qui ont fait des victimes. Au moins 2 morts et 80 blessés, dont 2 dans un état grave dans l'ouest de la Bolivie. 2 explosions successives se sont produites dans une installation militaire abritant du matériel pyrotechnique, une réserve de feux d'artifice du ministère de la Défense. Outre les victimes, 14 personnes sont portées disparues. Dans l'actualité politique en France, ce week-end, c'est à Lille qu'il faut se montrer. Jean-Luc Mélenchon, Gabriel Attal, Marine Tondelier, plusieurs candidats à la présidence de la République arpentent les stands de la braderie de Lille, plus grande du genre en Europe. Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, est lui attendu sur les berges du lac de Côme en Italie. Il doit participer à un grand forum économique et aussi répondre à une dizaine d'interviews dans la presse étrangère. Ces voyages s'inscrivent dans le rôle très particulier que devra jouer Jordan Bardella tout au long de la campagne présidentielle. Raphaël Delvolvé.
Officiellement, cette mini-tournée de Jordan Bardella doit permettre de renforcer la crédibilité du RN en Europe. En réalité, elle permet surtout de médiatiser et d'entendre le parti à la flamme sans gréver les comptes de campagne au moment où les autres candidats à la présidentielle sortent du bois. Ce ne sont pas des déplacements de campagne, précise un haut cadre RN pour qui Marine Le Pen doit surtout économiser sa parole. Au risque de donner une vitrine internationale à un candidat au poste de Premier ministre et donc faire de l'ombre à la candidate à l'Élysée. Personne n'a la stature ni la popularité de Jordan dans les autres formations, balaie un responsable du parti, selon lequel le RN, ce sont 2 super produits, Le Pen et Bardella, et je cite, « des électeurs votant pour les deux ». Un proche de la candidate modère toutefois, il faudra construire au fur et à mesure ce duo, comprendre, faire en sorte d'éviter les dissonances, voire les frictions entre les deux têtes du parti, comme cela s'est récemment vu sur l'interdiction du voile ou la réforme des retraites.
Raphaël Delvolvé du service politique. Football, la 3e journée de Ligue 1, toujours en quête d'un premier succès cette saison. Le Paris Saint-Germain s'est incliné hier soir à domicile contre l'AS Monaco 2-1. L'ASM devient seul leader au classement. En tennis, l'US Open, les sœurs Venus et Serena Williams se sont inclinées d'un souffle au premier tour du tournoi de double féminin. C'était leur retour ensemble à New York. Avant de conclure, direction l'Argentine où la justice ordonne la restitution d'un tableau volé par l'Allemagne nazie. Ce tableau était réapparu à Mar del Plata il y a un an. Un tribunal fédéral argentin vient d'ordonner sa restitution à l'héritière d'un galeriste juif néerlandais. Récit à Buenos Aires de Théo Conscience.
Plus de 80 ans après avoir été spolié, le tableau Portrait d'une dame, peint au XVIIIe siècle par l'italien Giuseppe Ghislandi, s'apprête à retrouver sa propriétaire légitime. L'œuvre appartenait au marchand d'art Jacques Rautsticker, dont la collection a été pillée par l'occupant nazi aux Pays-Bas pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle avait refait surface en Argentine l'an dernier, presque par hasard, lorsqu'un journaliste néerlandais l'avait repéré sur une annonce immobilière dans la station balnéaire de Mar del Plata. Elle était alors en possession de Patricia Katgin, fille d'un haut dignitaire nazi qui avait fui en Amérique du Sud après la guerre. Après avoir été mise en examen pour recel et tenté de faire valoir la prescription du délit, celle-ci a finalement accepté de conclure un accord qui prévoit la restitution du tableau à la belle-fille et unique héritière de Jacques Rautsticker. Avant de récupérer le tableau, cette dernière souhaite, selon le journal Clarín, qu'il soit exposé un temps au musée de l'Holocauste à Buenos Aires à des fins de sensibilisation. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Midi et presque 10 minutes ici à Paris, c'est la fin du journal. Merci d'avoir écouté, je vous retrouve à 13h pour une nouvelle édition d'ici là, écho d'ici, écho d'ailleurs, l'émission de Bruno Faure.
Les rayons gamma sont des radiations émises par des corps radioactifs et ils sont analogues aux rayons X.
Excellente réponse, Kelly. Quant à ceux qui ont répondu qu'il fallait beaucoup écouter la radio pour devenir radioactif, ils sont à côté de la plaque.
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure 95.9 et partout ailleurs sur principeactif.net. Principe Actif, le mix des cultures.
Ya mini venue que ma vérité parte en éclats. Chacune de mes mesures s'aiguise pour un homme d'état. On a trop patienté dans la souffrance de nos quartiers. Je t'écris la mélodie de la pauvreté dans nos foyers. Combien de nos familles croupissent au fond de la mer des dettes. Combien de parents sont emportés par les vagues de la misère. Vos loyers engloutissent les trois quarts de nos bas salaires. Comment nourrir sa famille avec le quart qui nous reste. L'état est le seul coupable du système D dans ma rue. Dans l'arène de la survie, c'est soit tu meurs, soit tu luttes. Les hommes d'état posent le chiffre du taux de chômage afin de récolter un maximum de bulletins dans leur suffrage. Chaque politicien a le don d'envoûter les citoyens. Toutes leurs belles promesses ont coulé dans le grand bain. À l'heure où j'écris, chacune de mes lettres est une balle. Sachez que mon baril est chargé en encre, ne s'enraye pas. C'est 1 pour ce riche, 2 pour cette riche, 3 pour vos riches, mais rien pour mes pauvres. C'est 1 pour ce riche, 2 pour cette riche, 3 pour vos riches et rien pour mes pauvres. C'est 1 pour ce riche, 2 pour cette riche, 3 pour vos riches, mais rien pour mes pauvres. C'est 1 pour ce riche, 2 pour cette riche, 3 pour vos riches et rien pour mes pauvres. À chaque manifestation conçue pour réclamer notre dû, Alliot Marie s'empresse d'envoyer l'armée de Belzébuth. Nos portefeuilles menottés par les taxes de vos impôts. À chaque station, le prix du carburant nous brise une côte. Pendant que l'Elysée voyage sur le dos de mes citoyens, une famille sur deux se cotise pour l'achat d'un poupin. Mon cœur incarcéré derrière les barreaux de la survie. Pendant que Rachida Dati défend les lois de l'injustice, un banlieusard musulman est si fier de l'être. Pour chaque couleur ou religion, j'ai la porte du cœur ouverte. Je rends hommage à nos ancêtres qui ont défendu la France. Le Pen, vos discours n'embobinent que les faibles en intelligence. On nous montre sans cesse du doigt tel des animaux en cage. Sachez que le singe est plus intelligent que les hommes du Sénat. Tant pis si mes écrits véridiques risquent de vous blesser. J'offre aucun pansement pour ceux et celles créchant à l'Elysée. C'est 1 pour ce riche, 2 pour cette riche, 3 pour vos riches, mais rien pour mes pauvres. C'est 1 pour ce riche, 2 pour cette riche, 3 pour vos riches et rien pour mes pauvres. C'est 1 pour ce riche, 2 pour cette riche, 3 pour vos riches, mais rien pour mes pauvres. C'est 1 pour ce riche, 2 pour cette riche, 3 pour vos riches et rien pour mes pauvres. Chaque produit de consommation est sans cesse surtaxé. J'ai déserté Lidl pour l'achat d'aliments dégriffés. Nos factures impayées forment des montagnes sur nos chevets. Le bizarre de l'euro nous empêche d'accéder au sommet. À une époque où l'oxygène est prélevé sur nos comptes, au moindre retard EDF sectionne ta respiration. Pendant que des familles remplissent vos dossiers sur endettement, Christine Lagarde hésite sur la destinée de ses vacances. Alors que vos mains sales se gavent dans les buffets, la jeunesse manquant d'air suffoque dans nos quartiers. L'État assassine l'homme gênant à la langue véridique. Balavoine fut la victime de Mitterrand et de ses acolytes. Pendant que Chirac détendu sur sa terrasse de Corrèze, libre tire autant le jus du RPR au présidentiel. Je décris nos survies sous la lune des bergères. Je représente la pauvreté sans aucun rayon de soleil. C'est 1 pour ce riche, 2 pour cette riche, 3 pour vos riches, mais rien pour mes pauvres. C'est 1 pour ce riche, 2 pour cette riche, 3 pour vos riches et rien pour mes pauvres. C'est 1 pour ce riche, 2 pour cette riche, 3 pour vos riches, mais rien pour mes pauvres. C'est 1 pour ce riche, 2 pour cette riche, 3 pour vos riches et rien pour mes pauvres.
Inutile d'obtenir vos places, vous serez tous en première loge. Sensationnel, formidable, ça me rappelle ma jeunesse. Ça commence bien.
Le spectacle continue.
Les événements culturels estivaux sont-ils en danger? Nous allons aborder ce sujet en évoquant, moi et mes invités, quelques exemples de festivals non reconduits, annulés, en pause ou en fragilité, mais évoquer aussi ceux qui résistent. Les cachets des têtes d'affiche et le budget de la sécurité qui augmente, la hausse des coûts techniques et l'inflation, les bouleversements climatiques, le prix des assurances qui se méfie des annulations et même les tensions politiques. Comment la culture peut-elle résister et continuer de rester accessible à tous? Nous allons en discuter avec mes invités. Julie, co-directrice du festival à la Folie à Rouen. Bonjour.
Bonjour Philippe.
Thomas, expert sociologue.
Bonjour.
Et Sylvie qui nous apportera son regard de spectatrice.
Bonjour Philippe.
Et on va commencer par cette année où les médias ont beaucoup parlé de l'annulation de Solidaise en juin. C'était une annulation sur demande de la préfecture qui l'avait annoncée la veille de l'événement en raison de la canicule, mais aussi pour soulager les services d'urgence. Le festival Garo Rock avait dû aussi annuler 3 journées sur 4 en raison de conditions météorologiques difficiles. Même chose pour les petits festivals comme Perche en Rock en Normandie, où l'annulation avait été prononcée par le préfet de l'Orne au milieu des concerts du vendredi soir. Les organisateurs avaient alors tenté de négocier une dérogation en proposant d'annuler le marché artisanal de l'après-midi et de couper les ventes d'alcool, mais la préfecture a maintenu l'interdiction. La frustration était forte pour l'équipe qui avait investi dans les brumisateurs, des zones d'ombre et distribué de l'eau fraîche, surtout que c'est un festival qui est en prix libre, donc si les gens voulaient pas venir, à la rigueur, ils ne venaient pas et c'était réglé. En juillet, Musique à la rue a été annulée à la dernière minute par la préfecture, cette fois-ci en raison de risques d'incendie, et le festival Uzest Musical a contourné la même interdiction en se délocalisant, puisqu'il s'agit d'un rassemblement festif des arts, plus facile à déplacer. Bernard Lubat, son fondateur et grand artiste musicien improvisateur, a eu de la ressource pour l'adapter dans l'urgence à 15 jours de l'événement. Il y a 4 ans, en 2022, on se souvient aussi de l'annulation d'une des journées du festival We Love Green pour cause de violents épisodes d'orage et de pluie diluvienne, une annulation décidée en urgence par les organisateurs du festival sur demande express de la mairie de Paris en coordination avec les autorités. Le même week-end, Rush Festival de Rouen annulé une journée pour les mêmes raisons. On va donc, après ce long discours, on va donc parler du climat. Est-ce que le climat fragilise plus les festivals aujourd'hui ? Nous allons commencer avec Thomas. Thomas, votre point de vue sur le climat et les festivals en 2026.
Voilà, cette longue introduction, quoi dire de plus, hein, c'est la planète change, le climat change, nous devons évoluer avec lui. Merci.
Julie, vous êtes dépendante de la météo également puisque vous co-dirigez le festival À la Folie. L'an passé, pour tenir compte de la pluie qui a un petit peu perturbé le festival, comment vous y êtes pris ?
Alors déjà, je voulais vraiment dire la joie que j'ai d'être sur ce plateau avec un grand docteur en sociologie et également Sylvie, spectatrice. Merci beaucoup Philippe de votre invitation. Donc nous, effectivement, le festival À la Folie, c'est un petit festival de quartier à Rouen qui a lieu en septembre, souvent mi-septembre, en plein air. Donc forcément, on est dépendant de la météo. Et l'année dernière, pour la première fois, il y a eu beaucoup de pluie. Donc ça nous demande de nous adapter et de trouver le matériel nécessaire pour pouvoir faire en sorte que tous les spectacles aient lieu.
Donc pas d'annulation l'année dernière ?
On n'a eu aucune annulation de spectacle l'année dernière pour cause de météo, en tout cas. Et on a trouvé un maximum de barnums pour pouvoir couvrir et les spectateurs, spectatrices et les artistes.
Je me souviens qu'on avait baladé plein de tapis qu'on a dû à la hâte enlever parce qu'ils étaient imbibés d'eau, de pluie.
Oui, c'est vrai que ça demande aussi une réactivité assez rapide de tous les bénévoles parce qu'on est tout le décor du festival est fait avec du matériel recyclé, donc souvent des tissus et qui ne résistent pas à l'eau. Donc tous nos tapis étaient trempés, les chaises étaient trempées, enfin tout ce qui était tissu était trempé qui servait de décor au festival. Donc on a enlevé tous les tapis et mis des bancs à la place. Ça demande une réadaptation, mais qui se fait dans la joie et la bonne humeur, parce qu'on est un petit festival et que l'équipe est soudée depuis 4 ans.
Et vous pouvez donc rebondir aux aléas météo. Cette année, on espère peut-être pas de canicule en tout cas. Et est-ce que vous avez éventuellement des moyens, si imaginons qu'il fasse très très chaud
S'il fait très chaud, on a pensé à mettre des seaux d'eau sur des barnums et de faire tomber les seaux d'eau sur les spectateurs, spectatrices et sur les artistes. Voilà. Ce serait une petite surprise, un petit plus dans le festival.
En tout cas, pas d'annulation, on s'adapte.
Je plaisante, ouais. Philippe, bien sûr. On n'a pas eu le cas encore. S'il fait très chaud, comme en plein mois d'août, j'imagine qu'on va essayer de mettre un maximum de brumisateurs et de mettre aussi les barnums pour que tout le monde soit à l'ombre, artistes comme spectateurs et spectatrices.
Il y a beaucoup de spectacles en journée, donc on ne peut pas forcément décaler tout le soir. Donc on s'adapterait, j'imagine, et puis on fera en sorte que tout puisse bien se passer, sauf interdiction préfectorale, mais pour l'instant, il n'en est pas question, je pense.
Voilà, nous on croit que tout est possible et que le festival aura lieu sous toutes les conditions, je dirais.
Super, Julie. Et puis nous avons également Sylvie sur notre plateau qui va nous parler peut-être si tu as eu lors d'un festival affaire à des moments où il pleuvait beaucoup, où il faisait trop chaud. Est-ce que tu as un petit souvenir, une petite anecdote à nous dire par rapport à ça ?
Oui, tout à fait. J'en ai une. C'était pendant le festival Vivacité. Excusez-moi, je ne sais plus en quelle année c'était. C'était la compagnie Les Batteurs de Pavés, d'ailleurs, je m'en souviens très bien. Et il faisait très chaud. pour le coup, c'était pas la pluie. Il faisait vraiment très chaud et du coup, ils s'étaient adaptés en fait. Hein. Donc du coup, ils avaient pu déplacer très rapidement pour trouver un coin à l'ombre. Donc on avait pu voir la pièce. Bien sûr, on avait un peu chaud, mais bon, néanmoins, faut aussi faire preuve un peu d'indulgence, de compréhension. Et donc on voit que dans la mesure du possible, on fait preuve de la part des professionnels, enfin les artistes, etc. Ils s'adaptent, il y a de l'agilité. On fait tout pour que ça puisse se passer au mieux pour tout le monde.
D'ailleurs, ça fait plusieurs années qu'à Vivacité, il fait assez chaud. Hein, ça se passe beaucoup en journée. Et en général, il y a des brumisateurs qui circulent, mais aussi il y a des spectacles où les artistes, on a l'impression qu'on se demande comment ils font. C'est une vraie performance hein, de les voir au soleil et les spectateurs qui se mettent un peu à l'ombre comme ils peuvent.
Je voulais rebondir sur ce que tu disais, Philippe, et sur Vivacité. Et je crois que par rapport au changement climatique, ils essaient de déplacer les spectacles de plus en plus sur des horaires matinales.
C'est tout à fait exact. Voilà, pour le festival Vivacité Théâtre de rue. Thomas, toi, tu es expert sociologue, mais évidemment, tu as participé à beaucoup de festivals. Tu es un adepte des festivals de musique, de théâtre également. Est-ce que tu peux nous apporter un point de vue par rapport à ces changements climatiques ?
Oh là là, quoi dire, c'est extraordinaire comme question, c'est abyssal, je dirais. Après l'évolution de tout ça, ça va être oui, des déplacés, peut-être on va faire des festivals au printemps plutôt qu'en été, de plus en plus, ou on jouera la nuit, peut-être le matin très tôt, pourquoi pas, aussi s'adapter à tout ça. Donc c'est vrai qu'après sous terre, voilà. Donc c'est un monde qui change, quoi. C'est un monde qui change, Philippe. Il faut que tu t'y fasses. Donc peut-être de jouer en altitude, peut-être sur des sommets montagneux, peut-être je sais pas où.
Alors on est ici à Rouen, hein, donc à Rouen on peut parler du Rush Festival, et en 2022, je le disais en prologue, il y a eu cet épisode alors qui avait touché non seulement Rush Festival mais également Wheel of Green, où il y a une journée où c'était des pluies diluviennes et ça avait dû être annulé, et je suis pas sûr, mais suite à ça, en tout cas, le Festival Rush ne s'est plus tenu sur la presqu'île Relais, mais a été dispatché sur une dizaine de jours à différents endroits. Il a perdu un petit peu son origine, c'est-à-dire trois jours successifs avec plein d'artistes, et dont un artiste programmé, en fait, co-programmé en tout cas les trois jours. Donc maintenant, ça a changé de formule et on ne sait pas si c'est dû à ces changements climatiques, mais il faut effectivement s'adapter et ce n'est pas toujours évident. On va continuer cette émission toujours autour des festivals qui sont parfois en danger. Alors, on parlait de Solidaise, hein, l'édition a été brutalement annulée cette année par la préfecture de police de Paris en raison d'une vigilance rouge canicule exceptionnelle, hein, puisque ça frôlait, on le rappelle, les 40 degrés. Les autorités craignaient donc une saturation critique des urgences, les secours déjà sous haute tension, les hôpitaux franciliens. On n'a pas parlé de ça, mais effectivement, quand il y a des annulations du préfet, c'est aussi parce que on manque de moyens au niveau des hôpitaux. Toi qui es expert sociologue, peut-être tu peux nous parler un petit peu de cet état de fait, Thomas.
Oui, je pense que j'ai vraiment un bagage technique vraiment important sur tout ce qui est question des urgences médicales. Je peux faire un pansement si tu veux, là, si t'as un petit bobo. Enfin, faut pas saturer les hôpitaux, saturer les urgences, donc avec des festivals de musique, même si c'est la culture aussi, c'est important, mais bon. Voilà, non, j'ai pas plus de choses à dire.
Oui. Je me serais attendu quand même à mieux. La qualité de l'expert en sociologie.
Je m'échauffe là pour l'instant.
Sur le climat, c'est pas là où tu es le plus à l'aise.
Bizarrement, je ne sais pas.
Ni la santé non plus.
Ça va pas être.
La culture, ça ira. Le même week-end, ça tombait en fait au moment de la fête de la musique, hein, plus ou moins. Il y avait la marche des fiertés. Il y avait des scènes musicales extérieures. Il y avait une grande marche et ça avait été également interdit par la préfecture le même week-end que Solidaise pour les raisons identiques, c'est-à-dire des risques sanitaires liés à la canicule. On a parlé également de Gare au Rock, qui est un grand rassemblement. Contraint de s'endetter aussi pour s'aligner sur les tarifs de Star American. Alors là, on va parler un petit peu de tout ce qui est lié à